Ce qu'on veut, ce ne sont plus des déclarations ou des initiatives, mais on veut passer de la rhétorique à l'action, donc avoir des budgets pour appuyer l'éducation secondaire des filles, leur éducation sexuelle, la lutte contre les violences, contre les mutilations génitales, qui sont souvent un précurseur au mariage forcé, et en général, mettre les adolescentes au centre des interventions et de voir tout ce qui est nécessaire. Il y a des investissements ciblés qu'on peut faire dans certains pays où il y a des taux de mariage forcé très élevés. Et les États-Unis, en ce moment, n'ont pas vraiment une stratégie d'investissement. L'argent est dépensé ici et là. Je crois qu'il y a une volonté, mais il faut l'activer.
Au niveau des lois de certains gouvernements, notamment de l'âge légal du mariage, est-ce que vous avez une marge de manœuvre qui vous permet de les influencer?
C'est assez compliqué parce que dans certains pays, par exemple en Inde, où on a énormément de filles qui sont mariées alors qu'elles sont enfants, l'âge légal du mariage est 18 ans et depuis de nombreuses années. Donc, la loi n'a pas toujours un impact sur le terrain. Par exemple, au Cameroun, le Code civil permet le mariage des filles à l'âge de 15 ans avec le consentement des parents. Intéressant d'ailleurs, c'est pas le consentement de la fille, mais avec le consentement des parents. Ceci dit, il y a énormément de mariages alors que les filles n'ont que 12 ou 13 ans. Et souvent, ce sont les pratiques coutumières qui ont précédence.
À ce propos, un mot sur les États-Unis.
Eh bien, aux États-Unis, l'âge du mariage est déterminé par les États, donc ça varie d'un État à l'autre. Et il y a encore un bon nombre d'États américains qui permettent les mariages des filles et des garçons à l'âge de 16 ans. Alors, les États-Unis eux-mêmes ont quand même du ménage à faire dans leur législation.
On parle beaucoup de ce que peut apporter la jeune fille, la jeune femme en retour si on la respecte, mais la souffrance dans tout ça, est-ce que c'est pas un apport non plus d'éviter de la faire souffrir?
Oui, évidemment, et parce qu'elle souffre des sévices physiques, mais aussi des dommages psychologiques, parce que c'est un choc épouvantable de se trouver marié à 12 ans à un homme de 50 ans. C'est épouvantable, évidemment, pour toutes ces filles. On voit vraiment la prise de conscience. Les mères nous disent « oui, je regrette vraiment. Et maintenant que j'ai pris conscience, je saurais quoi dire pour sa petite sœur. J'ai un autre discours en tête. » Alors, autrefois, je n'avais même pas conscience que je pouvais dire autre chose.
Selon vous, ça sera ma dernière question, comment éviter, je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais comment éviter de se retrouver un petit peu comme dans le même piège qu'avec l'excision? L'excision, c'est une lutte de plusieurs décennies. Oui. On nous annonce des progrès ici et là, et puis l'on découvre malheureusement qu'il y a recrudescence d'excision. Comment éviter ce même piège avec les mariages forcés?
Je crois qu'il y a eu des erreurs commises dans les campagnes contre les mutilations parce que c'était souvent des voix de l'extérieur qui venaient dénoncer des pratiques. Alors, je crois que le travail, il faut qu'il soit fait d'abord par les organisations de base de ces communautés et non pas des gens de l'extérieur. Il faut que ça soit engagé dans une discussion globale qui parle des dommages, des sévices et une conversation vraiment qui part de la base et qui ne heurte pas la culture de front, mais dit qu'il faut changer notre culture pour donner vraiment une chance à nos filles. Et quand ça vient, je crois, de l'intérieur d'une culture, il y aura moyen de changer. L'erreur qu'on avait commise, c'était d'attaquer et de dénoncer les pratiques en les qualifiant de barbares, ce qui a créé un rejet, un effet de rejet, une dénonciation de ces efforts comme étant des efforts qui viennent du Nord, de l'Ouest, qui s'en prennent à la culture et à la religion. Il ne faut pas refaire cela, ne pas commettre cette erreur.